كان الحل المؤقت ولا الحل الدائم؟ الحل النهائي هو العودة، إنما الحل المؤقت.
Vous me parlez d'une solution.
لو سألنا سؤال قبل الحل.
La solution, c'est le retour.
واقع المخيمات الفلسطينية.
Et la solution provisoire. Avant d'en parler, je vous pose une question. Est-ce que les Palestiniens ont décidé la répartition géographique des camps? Bien sûr que non. En tout cas, nous ne comptons pas rester ici si longtemps. Ce sont les Syriens, les Libanais et les Jordaniens qui ont assuré cette distribution. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que nous sommes là. Qu'est-ce qui peut changer cette réalité? À long terme, c'est le retour. Mais soyons pragmatiques. En attendant, il faut au moins améliorer nos conditions de vie. Avoir la possibilité de travailler parce qu'enfin, avec toutes ces pressions, que faire et où aller? On subit tout, on supporte tout. La diaspora, l'injustice des autres, les conséquences de guerre des autres. Tout Palestinien au Liban ne veut rien d'autre qu'être un élément utile jusqu'à son retour. Ce jour-là du retour, on ne va pas porter les camps sur notre dos. Je crois qu'on peut quand même revendiquer un simple droit, celui pour les gouvernements arabes de nous assurer le minimum vital. Qu'ils nous laissent au moins la possibilité de garder notre identité. Nous ne voulons pas d'une nationalité différente, libanaise ou autre.
Et savait, et rêvait, et rentrait, et rêvait. Et savait, et rentrait, et rêvait. Et rêvait, et rentrait.
زنبق تحت الغروب وأهدي وأعرق أمامك وأقول الوداع نلتقي في ذات يوم
Cette terre, il y a ce qui mérite vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Achille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre, une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots, l'heure de soleil en prison, des nuages qui imitent une volée de créatures, les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent souriant vers la mort et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre. Mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine.
Le rapport que peuvent avoir ces Palestiniens des camps au Liban avec l'autorité palestinienne, ayant le sentiment justement là aussi que dans les négociations qui ont été menées en 93, 94, 95, l'autorité n'était pas suffisamment forte pour véritablement défendre leurs intérêts. Ils ont eux aussi la crainte, non seulement d'être lâchés par la communauté internationale qui n'aura pas forcément les moyens d'imposer un règlement juste concernant leur sort, mais ils ont aussi la crainte d'être lâchés par l'autorité qui n'aura pas elle non plus les moyens d'imposer une véritable solution juste à cette question des réfugiés. L'autorité essaiera dans un premier temps simplement déjà d'avoir un territoire, si je puis dire, des frontières, régler la question des colonies, et donc on voit bien que dans ce cadre-là, la question des réfugiés étant la plus difficile, elle risque d'être un peu mise de côté. Ou en tout cas, pas gérée comme eux souhaiteraient évidemment qu'elle le soit.
يعني بتصير معي هون كمواطن فلسطيني يعني بتجبرني انه اطلع بريت هالبلد مثلا بس انا فلسطيني
خالد
بشتغل عند معلم بشتغل باخذ يوميته وكل شيء عادي تمام.
Certaines choses m'obligent à partir loin de ce pays. Par exemple, en tant que Palestinien, je peux travailler, recevoir un salaire. Mais n'importe qui peut arriver et proposer ses services pour 5000 livres de moins que moi. Et mon patron l'embauchera à ma place. En fait, je ne travaille qu'une semaine par mois. Le matin, je quitte le camp à 6h30 pour aller travailler. J'arrive au travail à 10h, je gagne 20000 livres par jour. Je dépense 7000 ou 7500 dans les transports. Il y a aussi les repas et les cigarettes. Il me reste 10000 livres. Qu'est-ce que tu veux qu'un jeune de 24 ans fasse avec ça? Tu ne peux pas mettre de l'argent de côté. Tu vis avec. Je ne peux rien faire. Je subis mon destin. Mes mains sont impuissantes. Si je pouvais partir à l'étranger, je ne prendrais même pas mes affaires, juste mon passeport. Ne crois pas que je cherche seulement à partir de ce pays. Ce que je cherche, c'est une paix psychologique. Je voudrais sentir que je suis un être humain, palestinien, que j'ai des droits. Mes collègues libanais, syriens me demandent si j'ai déjà été dans mon pays, je leur dis non. Je souris, mais intérieurement, je sens un déchirement. Je suis palestinien et je ne connais mon pays qu'à travers la télévision. Une télévision qui nous empoisonne la vie avec des images d'enfants qui se font tirer dessus, des femmes qui se font humilier, des jeunes qui se font briser les os par les soldats à coups de pierre. Tu as peut-être vu ça à la télévision. Moi, j'ai hâte de connaître mon pays, mais j'en suis privé. Lorsque je vois de telles images, je sens une révolte à l'intérieur. Je vois, j'écoute et je me tais. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrais me taire. Je veux partir à l'étranger. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, plutôt pour obtenir la nationalité allemande ou une autre. Alors il me sera permis d'aller dans n'importe quel pays, en Palestine. Je ne serai pas un Palestinien qui rentre en Palestine, mais un Suédois. Un Palestinien suédois qui va où ? En Palestine. Mon rêve, c'est de voir la Palestine. Mon obsession, de me sentir un être humain avec des droits. Et pas la personne qui regarde, qui écoute, qui se tait. C'est peut-être la raison de l'explosion palestinienne.
Et ceux-là, ceux qui ont payé tellement cher, qu'est-ce qu'on leur propose comme solution? Rien. Parce que vous savez que le droit de retour n'est même pas encore négocié entre Palestiniens et Israéliens. Vous savez qu'au Liban, il y a une obsession, une hantise que ces Palestiniens restent. Donc, pour s'assurer qu'ils ne vont pas rester au Liban, qu'ils ne vont pas revendiquer de rester citoyens au Liban, on fait toutes ces mesures réellement pour les encourager à partir, pour leur dire, vous n'avez pas d'avenir ici, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas le droit de réparer vos maisons, il vaut mieux que vous alliez ailleurs. Et les Libanais le font parce que les Libanais eux-mêmes sont hantés par l'idée de l'équilibre communautaire entre différentes confessions et que les Palestiniens sont majoritairement musulmans, mais aussi parce qu'ils sont majoritairement très militants et qu'il y a ce souvenir de guerre civile. Personnellement, je ne pense pas que les Palestiniens soient responsables des raisons de la guerre civile, mais ils ont sûrement été un catalyseur. Et étant donné que nous nous sommes alliés à un camp qui est le camp progressiste, nous sommes rentrés dans le combat intérieur libanais et je crois que personne ne souhaite voir l'OLP reprendre un rôle de partisan dans les conflits à venir. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est une situation assez tragique. Ça veut dire que les autorités libanaises ne disent pas carrément, si elles disaient carrément, nous prenons ces mesures parce que nous avons peur que vous ne puissiez pas avoir accès au droit de retour en Palestine, ce serait encore plus humain. Mais on ne leur dit pas ça. On leur dit, vous êtes une communauté étrangère, même si vous avez vécu depuis 55 ans dans ce pays, vous n'êtes pas libanais, vous n'avez pas des papiers libanais, vous êtes étranger, on ne reconnaît pas la représentation de l'OLP avec qui on pourrait faire un accord. Nous avons demandé, nous, OLP, nous avons demandé à plusieurs reprises de signer un accord avec le gouvernement sur le statut où nous, OLP, on s'engagerait à dire cette communauté palestinienne, sa finalité est en Palestine, elle n'est pas au Liban. Mais les autorités libanaises refusent. Et c'est absolument inadmissible. C'est pas seulement du mépris, c'est une violation des droits humains de la personne.
C'est la porte. Et derrière, l'Éden du cœur. Nos choses, tout ce qui nous appartient, s'estompe. Porte est la porte. Porte de la métaphore, porte du conte. Porte qui épure septembre. Porte qui ramène les champs à la genèse des blés. Nulle porte à la porte. Mais je peux accéder à mon dehors. Amoureux de ce que je vois et je ne vois pas. Tant de grâce et de beauté sur terre, et la porte serait sans porte. Ma cellule n'est claire que mon dedans. Que la paix soit sur moi, et paix sur le mur de la voix. En louange à ma liberté, j'ai composé 10 poèmes, ici, là et là-bas. J'aime les miettes de ciel qui s'infiltrent par la lucarne. 1 mètre de lumière où nagent les chevaux. Et les petites choses de ma mère. Le parfum du café dans les plis de sa robe quand elle ouvre la porte du jour à ses poules. J'aime la nature entre automne et hiver et les fils de notre geôlier et les journaux étalés sur les trottoirs lointains. Et j'ai composé 20 chansons pour maudire le lieu où il n'y a pas place pour nous.
En tout cas, moi, je cherche maintenant le comment. Comment faire? Comment pouvoir arriver à un certain équilibre au niveau identitaire? Comment arriver à la paix, si tu veux? Comment arriver à améliorer notre déjà réputation aux yeux de tout le monde? C'est vrai que parfois, tu te dis, mais je m'en fous de regard de l'autre, de la société internationale, de tout ça. Mais non, je m'en fous pas. Pour avoir besoin de ça, il faut quand même que les autres nous voient plus comme des terroristes. C'était une période et c'est fini. Il faut que les gens comprennent que c'est fini.
Ma liberté, être à l'opposé de ce qu'ils voudraient que je sois.
Les enfants des camps sont très perturbés, vous voyez, ils sont violents, très perturbés.
Ratiba,
personnellement, je désire. Hein, mon désir, c'est de vivre ailleurs, de vivre ailleurs, hors du camp, à cause de mes enfants. Parce que, bon, je veux que mes enfants aillent au cinéma, par exemple, aillent apprendre à nager, faire la natation, faire du sport. Hein, mais ici, au camp, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien pour les enfants. Dans les écoles de l'UNRWA, les enfants sont très très nombreux dans la classe. 50, allant de 50 à 55 élèves par classe.
Et le programme enseigné?
Moi, je pense que le système pédagogique, il est très difficile par rapport aux élèves.
Comment on leur enseigne l'histoire ici?
L'histoire, ils font plus d'histoire. L'histoire, ouais. Vous parlez de quelle histoire?
Quand il y a plein de délégations palestiniennes qui viennent en France ou qui sont là-bas au Liban, qui demandent des aides pour ces écoles, pour les camps de réfugiés, tout d'abord, ils demandent des aides matérielles. Ils ont raison. On n'a pas de cours, on n'a pas de place, on a besoin d'espace. Mais ils oublient quelque chose. Moi, je dis « et ». Je dis pas qu'on doit penser à ça avant. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a autre chose, une autre structure sur laquelle on doit travailler. C'est plutôt psychologique. C'est plutôt ces élèves qui n'y arrivent pas à imaginer. Bah oui, on leur apporte un espace pour jouer, c'est génial. On leur apporte des tableaux, des craies, une bibliothèque, tout ça. Mais ça suffit pas. Parce que c'est un truc qui concerne l'éducation, leur enfance qu'on vole. Mais d'un autre côté, parfois je me dis, mais on vit une guerre. Parfois je me sens coupable. Merde, pourquoi je pense comme ça? Je me reproche de dire, on nous vole notre enfance parce que c'est normal. On vit une guerre qui va peut-être durer. On est quand même dans une situation de conflit. Et même conflit, peut-être pour vous, mais pour moi, c'est une défense.
Retour à Beyrouth et reprendre son souffle. La guerre n'est qu'un instant, la terre est le seul allié dans l'exil. Et la terre, c'est le temps. C'est le temps.
Même si on sait très bien que c'est de l'ordre du rêve et que pour l'instant il y a très peu de chances d'arriver véritablement à un résultat correspondant aux aspirations de ces réfugiés aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même toujours l'espoir de retourner dans le village, dans la ville, de la famille, enfin avec tous les mythes qu'il y a autour de ça. Donc il y a une façon très vive de se raccrocher et d'entretenir cette mémoire collective, d'entretenir la mémoire de la maison, du village, des odeurs qui pouvaient exister quand on parle avec les Palestiniens. Palestiniens, c'est très frappant de voir comme à quel point ils arrivent à restituer des ambiances, des odeurs, alors que ce sont des jeunes qui évidemment n'ont jamais mis les pieds dans les lieux dont ils parlent, qu'ils décrivent, et on a l'impression qu'ils y ont passé toute leur enfance. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté très forte de maintenir cette mémoire, qui est aussi un moyen effectivement de rester en vie et de maintenir cette survie et de ne pas se laisser engloutir par le désespoir créé par la situation dramatique dans les camps palestiniens du Liban. Ou ailleurs, il y a un sentiment, je trouve, plus grand de normalité de la vie, parce que justement, les Palestiniens, qu'ils soient en Jordanie ou en Syrie, ont quand même une vie beaucoup plus normale. Ce qui rend encore plus pathétique certains témoignages, parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, il y a peu de chances, en tous les cas aujourd'hui, d'arriver à une évolution positive permettant justement à tous ces jeunes Palestiniens de pouvoir avoir accès un jour ou l'autre à leur mémoire, si je puis dire, de pouvoir retourner sur les lieux mythiques de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Aujourd'hui, après tant de déchirements et de haine, des voix résonnent comme des promesses au nom des humains. La voix du poète est celle de l'homme rouge, qui interroge du fond de son exil. La voix qui demande avec la tranquille assurance des rêves et le savoir de la douleur. Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts.
À ces jeunes réfugiés palestiniens au Liban, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire?
Oui.
Éducation, éducation, éducation. Je crois que ce qui sauve les Palestiniens partout, mais bien sûr, les plus démunis encore plus, parce qu'ils ont plus de lutte à faire pour s'affirmer, c'est que la plus belle chose, ce n'est pas d'avoir plus d'armes, ni plus d'argent, mais plus d'éducation. L'éducation est le vrai passeport. Ce n'est pas le passeport sur lequel on a une photo et une empreinte. C'est d'apprendre des langues, d'apprendre des métiers, d'essayer d'accumuler le plus de connaissances, parce que c'est ça qui vous fait reconnaître. Ce n'est pas la couleur de votre sang, ce n'est pas le passeport que vous portez. Ce qui vous donne une reconnaissance, ce qui vous donne confiance en vous-même, c'est vraiment d'avoir la formation qui vous rend citoyen de l'univers. Demain, lorsque l'État palestinien existera, il finira par exister, c'est ces capacités éducatives, ces diplômes, cette formation dans tous les métiers culturels, technologiques, électroniques, musicaux, qui vont vraiment donner à ces jeunes, je pense, un avenir.
تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذى أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغدا الأحلام الغدا والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب
Je les admire, je les aime physiquement.
Yousri Nasrallah.
Il y a dans cette manière d'être libre, d'exprimer sa colère, quelque chose de très très attirant qui représente le héros. Et cette manière-là de représenter le peuple palestinien comme étant un peuple composé de propriétaires entièrement, c'est un peu bizarre, ça n'existe pas. C'est les gens qui ont été expulsés, à supposer même qu'il y ait eu des gens qui ont vendu leur terrain, à supposer que ça soit arrivé. Bien, mais c'est pas les Palestiniens en général. Cette manière-là d'avoir peur de la pauvreté, d'avoir honte de la pauvreté, de l'impuissance et de donc de demander aux gens de ne pas aller dans les camps. Surtout, n'allez pas voir notre honte. Surtout, n'allez pas voir notre pauvreté. Mais je trouve que ce que vous manquez de voir en allant dans les camps, c'est la beauté aussi de gens qui se révoltent, de l'insoumission.
Tu parles, et c'est un devoir de parler. Tu parles tout le temps. Mais enfin, t'arrives chez toi, le soir, tu me dis, qu'est-ce que c'est un fardeau que je porte. J'ai eu du mal à distinguer, si tu veux, entre mon être palestinien et mon être qui veut vivre autre chose. Qui veut sortir en boîte samedi soir, qui veut lire d'autres livres, lire d'autres romans, qui veut changer, qui veut pas tourner la page. Mais là, je suis arrivée à faire un équilibre, si tu veux. À me dire, je suis Leda, palestinienne. Ben avant palestinienne, je suis une femme. Tu vois, je suis palestinienne, après. Donc, tout a un temps, quoi. Et j'ai le temps, voilà, j'ai le temps de... Je prends mon temps. Quand il s'agit de la Palestine, je lui donne tout.
Vous qui vous dressez sur les seuils, entrez, buvez avec nous le café arabe. Vous ressentirez que vous êtes homme comme nous. Vous qui vous dressez sur les seuils des maisons, sortez de nos matins. Nous serons rassurés d'être des hommes comme vous.
C'était l'atelier de création radiophonique « Jusqu'à quand ?» Paroles de réfugiés palestiniens au Liban par Frank Smith et Gilles Mardi-Rossian. Avec les témoignages de Habir, Alifé, Shaira, Leda, Ratiba, Abu Hani, Abu Rani. Les interventions de Yousri Nasrallah, Hicham Jourdi, Agnès Levallois, Leïla Chaïd. Les voix de Frédéric Brouillas, Marlène Duré et Claude Aufort. Texte de Mahmoud Darwish, dit par Jacques Albaré. Traduction de Leda Mansour. Archive INA.
Couverture tissée de rêves et de lucioles.
Extrait du film inédit de Hicham Jourdi, Une histoire d'aujourd'hui, Sabra et Chatila. Remerciements à Véronique Jolivet, à Paola, Michel, Kamal, Pascal et Madame Catcout. Prise de son et mixage, Serge Ristich et Michel Kreis.
I have news, good news from Notting Hill. The consignment of white gold has arrived for Mr. Anderson.